Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Rouge à la présentation.
Bonsoir et bonne année 2010 à tous. Heureux de vous retrouver. Publication hier lundi d'une série d'ordonnances portant révocation, mise à la retraite et promotion des agents de l'administration publique et des régies financières. Comment analyser cette nouvelle mise en place dans l'administration publique et les régies financières? Trois invités participent à ce dialogue entre Congolais. Il s'agit de Florent Moulumba, directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur Florent.
Bonsoir, monsieur Jeunesse.
Donatien Kadiboulou, président de l'intersyndicale des régies financières et secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC, que nous avons annoncé, mais que malheureusement nous n'aurons pas, étant indisposé. Il est remplacé par Satine Sungani, ancien président de la délégation syndicale nationale de l'OFIDA, Office des douanes et accises. Lui, il est en ligne, il sera avec nous dans quelques minutes. Faustin Soengao, professeur à l'université de Kisangani, à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Il sera également en ligne avec nous dans cette émission. Bienvenue à tous dans cette première émission de l'année 2010.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Une centaine des cadres et agents de la fonction publique révoqués, plus de 2500 mis en retraite et 1500 promus, c'est ce qui ressort d'une série d'ordonnances signées le week-end dernier par le chef de l'État. Ces mesures concernent les ministres des Finances, du budget et les régies financières. Pour Michel Botoro, ministre de la fonction publique, cette série de mesures s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'administration publique amorcé par le président de la République depuis le mois de juillet 2009. Mais seulement, plusieurs candidats à la retraite redoutent que leurs indemnités de sortie ne soient payées à temps. Le ministre de la fonction publique rassure, tout ira mieux. On écoute Michel Botoro, ministre de la fonction publique, au micro de Basile Bakumbane.
Dans le programme du gouvernement, le volet assainissement est un volet le plus important. Ce qui fait que les ordonnances que les chefs venaient de signer aujourd'hui ne sont que la suite des ordonnances que les chefs de l'État avaient signées sur proposition du ministre de la fonction publique et je suis au mois de juillet de l'an dernier. Donc, l'assainissement continue et cet assainissement a pour but de pouvoir remettre totalement de l'ordre dans le secteur public. Aujourd'hui, dans notre pays, le secteur public est un secteur qui était vraiment atteint par la pourriture au point que si on ne fait pas trop attention, nous risquons d'amener le pays vers la dérive. C'est ainsi que nous sommes obligés d'assainir. Assainir ici, veut que nous puissions voir dans les paquets des agents de l'État ceux qui ont déjà l'âge éligible à la retraite pour qu'ils partent et ceux qui méritent la promotion parce qu'en fait, après avoir passé plusieurs années sans promotion, certains les méritent et enfin, les gens qui se sont méconduits au cours de leur carrière, après avoir été entendus sur base de certaines actions disciplinaires par les conseils de discipline qui est à la fonction publique, seront obligés d'être frappés de mesures de révocation. C'est ce qui s'est passé normalement.
Florent Moulumba, je rappelle que vous êtes directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Comment analysez-vous cette troisième vague de mise en place dans l'administration publique après celle de la magistrature et la fonction publique opérée entre juillet et août 2009?
Merci pour la question. Merci d'abord de nous avoir invités à cette émission de manière à pouvoir aider le public à la meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer actuellement. Les ordonnances, vous avez dit, il y en a qui portent révocation, qui portent promotion et également la mise à la retraite. Notre analyse, c'est quoi? Le ministre de la fonction publique, Michel vient d'en parler tout à l'heure, il a fait allusion à l'assainissement dans le secteur de l'administration publique. Vous savez, il y a depuis quelques temps un phénomène nouveau et très apprécié, ce qu'on a appelé opération tolérance zéro, qui est initiée par le chef de l'État, dans le cadre de l'application de la sanction. Et la sanction, vous savez, dans le domaine de l'administration, on peut voir la sanction à deux sens. Vous avez la sanction positive, ce qui explique les promotions que l'on peut octroyée aux agents méritants, mais vous avez également la sanction négative qui, elle, porte sur la révocation, la suspension, etc., qui peuvent également couvrir la carrière d'un agent. Donc ça, c'est un des volets. L'autre volet, c'est que nous avons les textes officiels qui régissent l'administration publique congolaise. Et il se fait que depuis très longtemps, il est arrivé que l'application de ces textes puisse souffrir, justement. Et il y a maintenant une espèce de d'éveil, une prise de conscience, et une prise de responsabilité qui tend à faire voir des textes qui régissent notre administration appliqués de manière rigoureuse. Et la troisième ouverture que je puisse donner comme cadre justement qui justifierait ces ordonnances, c'est la réforme même de l'administration publique. Elle a commencé, elle est en train de poursuivre son cours normal, et il y a parmi les points prévus dans le cadre de cette réforme, vous avez justement le nettoyage du secteur de l'administration où, comme vous le savez, on a plusieurs personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, qui devaient normalement se déplacer à des nouvelles compétences et qui devraient normalement également prendre un repos tout mérité. C'est un peu dans cette circonférence que je place les ordonnances que le chef de l'État a prises dernièrement.
Alors, excusez-moi, pour rebondir sur le dernier point qui concerne la réforme de l'administration publique, comme vous en avez parlé, mais comment vous expliquez certaines irrégularités qui sont signalées, par exemple la révocation de certains syndicalistes pour avoir exercé le droit à la grève qui pourtant est constitutionnel, la nomination et la révocation en même temps de certaines personnes, comment vous expliquez ça?
Je ne voudrais pas dire ici qu'il y a eu une révocation préméditée des syndicalistes. Il y a des textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des syndicats, et pour le moment, vous savez que le syndicat fonctionne sur base des arrêtés et qui ne définissent pas très bien et très clairement les droits, les avantages, les obligations des membres des syndicats. Et aujourd'hui, parce que nous vivons la situation, le syndicalisme congolais, particulièrement dans le secteur public, est pourri. Vous avez n'importe qui se déclare syndicaliste, qui pose n'importe quel acte sans responsabilité, sans calculer les conséquences d'un tel acte posé par rapport à l'intérêt général. En ce moment-là, il y a une compromission. On tombe carrément dans le coup de filets de règlements administratifs. Et en ce moment-là, lorsque les textes administratifs sont appliqués, on ne devrait pas parler de la poursuite des syndicalistes.
Tati Ntsungani, vous êtes ancien président de la délégation syndicale de l'Office des douanes et accises, OFIDA. Comment vous avez accueilli cette nouvelle mise en place dans l'administration publique et des régies financières?
Oui, allô?
Allô Tati, vous êtes en ligne. Bonsoir, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de
vous parler avant. Bonsoir, vous me captez?
Oui, vous êtes en ligne.
Oui, je vous remercie d'abord pour l'invitation et pour la question que vous venez de me poser. J'ai suivi l'interlocuteur de tout à l'heure. Il est grave que le ministre ayant la fonction publique en charge s'entoure de personnes qui manifestement méconnaissent les textes. C'est très grave. Quand on parle des syndicalistes en disant « il y a n'importe qui » et en disant que la fonction syndicale, la corporation syndicale est régie par des décrets, manifestement l'interlocuteur méconnaît, ignore, peut-être involontairement, l'existence des instruments juridiques. Je le renvoie au Code du travail, je le renvoie à l'arrêté 053, à l'arrêté 054-55, signé par le ministre ayant le travail en charge, en date du 12 octobre 2004. Ce faisant, je voudrais dire que, encore une fois malheureusement, le chef de l'État a été induit en erreur, et c'est bien dommage. Celui qui vous parle a été président de la délégation syndicale de l'OFIDA. Je fais partie des révoqués pour des raisons que j'ignore. Je n'ai commis aucun acte contraire à l'exercice du droit du travail dans le cadre du contrat que j'ai signé avec mon employeur. Je n'ai jamais été, ne serait-ce que suspendu dans ma carrière, ça fait 11 ans. Un matin, comme tous les autres, je me réveille. J'apprends par la magie d'un décret ou d'une ordonnance présidentielle qu'on vient de mettre 11 années de carrière à l'arrêt. Je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai une épouse, qu'on bougie comme ça la vie de quelqu'un, alors qu'il n'existe aucune preuve matérielle sur les faits allégués. On a révoqué les délégués syndicaux parce qu'ils ont fait la grève. La grève est une pratique reconnue par la Constitution. Donc, dois-je savoir qu'on a violé la Constitution? C'est la question que je pose à mon interlocuteur. Je voudrais dire ceci, nous voulons bâtir un état de droit. Nous ne devons pas battre en brèche le droit commun sous prétexte qu'on veut assainir. Que veut dire assainir? On a opéré des promotions au nom de quoi? Quels sont les mérites qui ont été clairement définis et établis par le gouvernement pour dire que telle personne mérite la promotion et telle autre pas? Il y a beaucoup de gens qui méritent la promotion, ils n'ont pas été promus. Pourquoi certains ont été promus? C'est parce qu'il y a clientélisme, n'ayant pas peur des mots. S'il y a corruption, la corruption commence où, monsieur le journaliste? Mais au sein du gouvernement, tout le monde le sait. Alors pourquoi le gouvernement, de façon aveugle, frappe tout le monde, sauf lui-même? C'est grave, monsieur. On a induit le chef de l'État en erreur, et si le chef de l'État continue à se laisser induire en erreur, je ne sais pas où nous allons. Parce que nous voulons bâtir un état de droit. Nous ne devons pas accepter des gens parce qu'ils ont reçu mandat et qu'ils viennent parler de dire, disons, des choses qui, sur le plan intellectuel, ne convainquent pas. Nous avons élu Joseph Kabila, moi je l'ai élu, et il est chargé d'administrer correctement le droit dans ce pays. Et manifestement, ça n'a pas été. Et je voudrais terminer en disant ceci. Que ce soit les personnes qui ont été promues, il y en a qui ont été promues et à la fois révoquées, je ne voudrais pas citer les noms ici, il y a des délégués syndicaux qui ont été promus, qui ont été révoqués par le simple fait d'avoir exercé le droit syndical à la grève reconnue par la Constitution. Alors qu'on nous dise, monsieur le journaliste, qu'on a voulu assainir les régies financières parce qu'il y a des brebis galeuses. Un, on doit être en mesure de le prouver, de prouver que les faits qui sont portés à la charge des concernés sont avérés. Nous avons été entendus par une commission qui s'est fait appeler Conseil de discipline de la fonction publique, n'ayant pas reçu mandat, qui n'a aucune attribution, parce que vous savez qu'en droit, on dit que la compétence est d'attribution, donc il n'a reçu aucune attribution, aussi de la part du gouvernement que de la part des régies. Et je vais terminer en disant qu'il y a des agents de l'État qui ont travaillé sur le régime du code du travail, où la retraite était à 65 ans, qui se réveillent un matin parce qu'il y a un père de 55 ans, se retrouvent retraités. Mais ça n'a pas de sens, monsieur le journaliste. Nous devons faire le droit. Nous devons faire le droit, pas de l'amalgame. Là, il me semble que c'est de l'amalgame.
C'est
inacceptable, nous sommes tous congolais.
Voilà, permettez-nous de temps en temps de dialoguer, sinon l'émission va perdre son cours normal. Professeur Fosento Ingao, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous également, nous n'avons pas eu l'occasion de nous saluer en début d'émission. À ce niveau du débat, comment vous avez accueilli cette nouvelle mise en place dans la fonction publique et les régies financières?
Eh bien, lorsque on lit la Constitution de la République qui nous régit aujourd'hui, à son article 81, il est que le président de la République nomme, relève de leur fonction et les cas échéants révoque, sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres, notamment les hauts fonctionnaires de l'administration publique. C'est le point 4 de cette disposition constitutionnelle. Et de cette manière-là, je considère d'abord le chef de l'État comme étant l'autorité compétente pour poser un tel acte de gestion. Je considère aussi que l'administration publique, depuis un certain temps, a été constituée. Plusieurs engagements, beaucoup d'entrées dans l'administration publique, et notamment dans ce secteur-là, mais nous avons constaté que plusieurs années se sont écoulées, il n'y a pas eu de sortie. Donc, une administration qui ne fait qu'enregistrer des entrées sous forme d'engagement et qui n'arrive pas à un moment donné à organiser la sortie d'une administration constituée. Et ce qui peut être fait par les forces de l'État, c'est donc une véritable purge qui valait la peine sur le plan des principes. Parce que il faut quand même qu'on respecte les règles du jeu. On a de l'administration et on évolue, on peut être sanctionné positivement ou négativement. Et lorsque le moment est venu pour être mis en retraite, on doit être mis en retraite. Donc de ce côté-là, je crois qu'il faut encourager cet acte et même le féliciter parce que ça fait partie de la gestion normale d'une administration et le président vient ainsi d'appliquer dans l'administration publique un principe cher au management, le principe de sanction récompense qui caractérise tout système de bonne gouvernance. Alors, mais le problème qui se poserait, c'est au niveau de ce qui vient d'être dit, si les procédures ont été respectées, mais je crois qu'on n'a qu'à saluer cet acte-là. La retraite, le problème se poserait peut-être après la retraite, que deviennent ces hauts cadres d'administration qui ont rendu des loyaux services à la nation et la révocation, ce qui a été évoqué, est-ce que ça suffit? Je crois que la justice devait se saisir de ces cas pour accueillir ces gens afin qu'ils répondent des actes qu'ils ont posés parce que nous supposons que ce sont des cadres, des hauts cadres qui ont causé du tort à la nation, à l'ensemble du peuple congolais par des malversations financières, des détournements, des corruptions. Si ces cas sont avérés, je crois que la justice doit s'en saisir. Les promotions qui sont réalisées, je crois que nous devons les encourager, parce qu'il faut que la jeunesse puisse aussi émerger, ceux qui ont fait leur entrée dans l'administration, qui ont étudié, ils se sentaient un peu bloqués à un certain moment, parce que tous ces vieux qui ont été engagés, ça fait très longtemps, occupaient ces postes, et cela ne permettait pas à la jeunesse d'évoluer comme il se doit dans la carrière.
En libérant ce poste,
je crois que c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que ça soit déjà contaminé par ceux qui sont révoqués. Il va donc falloir qu'on soit un peu plus rigoureux dans les systèmes de contrôle pour que les nouveaux promis ne puissent pas commettre les mêmes actes qu'on reproche à ceux qui viennent d'être révoqués.
Voilà.
Donc, globalement, je crois qu'il faut inscrire cette action dans le cadre de la bonne gouvernance, mais si toutes choses, si toutes les conditions, toutes les précautions ont été prises, si cela s'inscrit dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines, c'est une action à féliciter.
Voilà, Florent Moulumba, vous avez suivi Tatin Sungani et le professeur Faustin Toingao. Il y a parmi les auditeurs beaucoup de réactions. Moussa Bwanamoya de Kindu Omanyema qui dit « Cette nouvelle mise en place dans l'administration publique et les régies financières est à encourager parce qu'elle permet d'éliminer tous les mauvais citoyens, entre guillemets. C'est aussi une façon de diminuer le taux du chômage en RDC. » Mais vous avez suivi Tatin Sungani qui dit qu'une fois de plus, le chef de l'État a été induit en erreur.
Ben, il peut le dire, c'est son droit. C'est la même chanson qu'on a entendue de tout le temps dans la bouche des syndicalistes. Lui-même, il est syndicaliste, il est de la même catégorie. Et il se fait malheureusement qu'il est concerné lui-même par les ordonnances de révocation. En ce moment-là, vous comprenez qu'il fait sa propre plaidoyer et ça ne serait pas facile qu'il se mette à la place du citoyen normal qui puisse comprendre le bien fondé, la portée exacte par rapport à l'intérêt général de ces ordonnances prises par promulguées par le chef de l'État.
Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, nous garantir que les procédures ont été respectées, que toutes ces personnes révoquées ont été entendues et qu'il y a des dossiers, par exemple, qui ont été ouverts sur le plan judiciaire?
Monsieur le syndicaliste a parlé tout à l'heure d'une commission devant laquelle il est passé, même s'il ne reconnaît pas, lui, le pouvoir, la compétence de cette commission, il existe bel et bien une commission de discipline qui a la charge, qui a été instituée légalement, conformément au texte, et qui a mission justement de procéder à l'analyse des différents dossiers qui ont été soumis. La commission a travaillé sur base des dossiers et il n'a pas inventé quoi que ce soit. Donc, je dirais que les procédures ont été respectées. Si il se fait qu'il y a quelqu'un qui estime qu'il est lésé, il existe également les voies de recours. Vous savez, une ordonnance de révocation qui est promulguée, telle que ça a été le cas, ne concerne pas une personne, elle a concerné plusieurs personnes. Et ces plusieurs personnes se retrouvent dans plusieurs secteurs d'activité, et chacun, en tant qu'agent, il est responsable vis-à-vis de son employeur. On ne peut pas généraliser le cas, Monsieur le syndicaliste ne peut pas généraliser, si lui a des preuves personnelles comme quoi il a été irrégulièrement sanctionné, il est de son droit d'introduire son recours par les voies régulières et justifier sa prise de position et voir dans quelle mesure il peut obtenir bien des causes.
Mais y a-t-il vraiment
tout simplement que les procédures ont été bel et bien respectées en partant de la base, c'est-à-dire du secteur dans lequel l'agent évolue, jusqu'à la transmission du dossier au niveau du ministère de la fonction publique et que la commission instituée à cet effet a eu à faire son travail et a donné des conclusions.
Et qu'elle détient des preuves sur les détournements.
Je voudrais dire ceci, à la fin des travaux de la commission, il ne faut pas croire que tout le monde qui est passé par la commission ou tout dossier qui est passé par la commission a abouti par la révocation. C'est que cette commission est une commission responsable et elle a agi en âme et conscience.
Mais y a-t-il des chances, par exemple, que quelqu'un qui a été accusé à tort puisse avoir gain des causes? On connaît les cas des magistrats qui ont introduit des recours depuis le mois de juillet et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont presque leur cause est restée presque sans suite.
Bon, vous avez parlé des magistrats. Les magistrats ne sont pas gérés par la fonction publique.
C'est un cas parmi tant d'autres.
C'est un cas parmi tant d'autres sur lequel je ne peux pas me prononcer parce que je ne gère pas, je ne suis pas.
Mais il y a des fonctionnaires qui ont introduit des recours, qui jusqu'à aujourd'hui sont en souffrance.
Les fonctionnaires ont introduit des recours, c'est tout à fait normal, mais c'est le début de la procédure qui n'a pas été bonne. Vous savez, en cette matière-là, lorsque la procédure n'a pas été bien respectée, justement, même en matière de recours, ça pose problème. Vous savez ce qui est arrivé? Il a été institué une commission pour traiter des recours. Mais lorsque il est admis que la délégation syndicale puisse participer à la commission des recours, il n'est pas dit qu'il faut amener toute la corporation syndicale participer à une séance de traitement des recours. Il est arrivé que plus de 90 organisations syndicales se présentent pour participer à une commission qui est censée avoir une vingtaine d'agents, une vingtaine de membres. Cela posait déjà des problèmes d'organisation au départ, et c'est cela qui a fait piétiner le début des travaux de la commission. Le temps de remettre de l'ordre, chercher qui de droit devait participer, ça a pris du temps, et c'est ça qui a fait retarder le début des travaux. Mais ces recours sont bel et bien pris en compte, parce qu'il s'agit d'une procédure tout à fait normale, une procédure administrative et bien reconnue.
Olivier Nkouba de Bouya en province orientale ainsi que Maître Juvenal Monobo, eux vont dans le sens des poursuites judiciaires. Je commence par Maître Juvenal Monobo de Goma, au Nord Kivu, qui dit « Je souhaite que ces révocations soient suivies, le cas échéant, des poursuites judiciaires pour promouvoir la transparence dans la gestion de la chose publique, que 2010 soit différente de 2009. » Olivier Nkouba de Bouya en province orientale, les révocations, d'accord, mais nous voulons aussi que les poursuites judiciaires s'en suivent. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là, Florent Moulumba?
D'abord, je voudrais féliciter tous ces intervenants. Je parlais ici du citoyen tout court, à l'exception de ceux qui se sont mal comportés et qui se sont retrouvés frappés justement par ces ordonnances. Ils ont un langage différent du langage du citoyen congolais en général. Et ces interventions, je les admire bien, je les félicite. Qu'est-ce qui est fait? Nous sommes dans une première phase qui a été celle du constat de la faute et de l'application de la sanction. Ensuite, maintenant, il est attendu, comme vous l'avez dit, que les concernés présentent le recours. Parce que justement, on ne voudrait pas qu'il y ait, du sentiment, qu'il y ait du préjugé dans la manière de traiter ce dossier. Nous avons attendu que les concernés introduisent le recours. Nous avons reçu des recours. On va traiter ces recours. On va conclure sur ces recours. S'il y a des personnes qui réellement, par erreur, se sont retrouvées victimes, ces personnes seront certainement réhabilitées parce qu'il n'est pas dans l'intention du chef de l'État de nuire à qui que ce soit. Le chef de l'État veut rétablir l'ordre et la discipline, il veut rétablir la transparence de la gestion dans les affaires de l'État, et ce n'est que cela. Donc, les poursuites judiciaires vont avoir lieu, ça vous devez en être sûr, parce que on a des preuves justement sur plusieurs personnes quant à leur comportement qui aurait nui à l'intérêt général, à l'intérêt de la République.
Taki Songani, ancien président de la délégation nationale syndicale de l'Office des douanes et accises au FIDA, vous êtes concerné par ces ordonnances. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que toutes les procédures ont été suivies, que vous êtes présenté en bonne et due forme, vous l'avez déjà dit, devant une commission, et que est-ce que le reste a suivi?
Bien sûr que non. Enfin, j'ai suivi mes deux intervenants. Je comprends leur obédience politique. Je comprends aussi le sens qu'ils donnent aux réponses que vous leur posez. C'est tout à fait normal. Il a été convenu par tous que l'administration publique est tracassière. Ça, c'est clair et net. Et elle a fait l'objet d'un certain nombre de dénonciations, aussi bien de la part des ONG que de toute personne de bonne volonté. En tant que délégué syndical, nous avons veillé à ce que l'ordre règne au sein de nos régies respectives. Pour ce qui est de l'OFIDA, je voudrais vous dire ici que le régime juridique sous lequel étaient, si vous permettez l'expression, régis les agents, c'était la convention collective, qui tirait son essence du code du travail. Et ça, monsieur le directeur de cabinet ne peut pas l'ignorer. Quant aux procédures, quelles sont les preuves à charge que la commission a retenu? La commission n'a fait que entendre. Allô, vous me suivez?
Vous êtes en ligne, Tati.
La commission n'a fait que entendre. Je dis bien entendre, je dis auditionner. Parce que les preuves à charge n'existent pas. Je mets le directeur de cabinet au défi. L'opinion nationale et internationale nous écoute. De me prouver, de me brander une preuve matérielle de malversation que Tati Sungani a commise. Je le mets au défi, vous êtes témoin Radio Capti, je le mets au défi. Et je ne suis pas seul, nous sommes nombreux. Nous voulons bâtir un état de droit, mais nous devons nous entourer des procédures, monsieur le journaliste. Il ne suffit pas de faire prévaloir l'autoritarisme que l'on détient éventuellement pour commencer à taper un peu aveuglement. La loi est certes impersonnelle, mais elle doit respecter les procédures et la présomption d'innocence. En tant que délégué syndical, monsieur le directeur de cabinet a été incapable de dire ce qui nous est reproché. Il parle de malversation. Lesquelles? Nous sommes rendus coupables de quelle malversation? La douane qui est corrompue, c'est pas les syndicalistes, voyons. Nous avons été simplement frappés parce que c'est un règlement de compte. On a voulu seulement nous clouer le bec. Comme nous étions en train de revendiquer nos droits, le gouvernement étant incapable de payer les salaires à temps, ayant accumulé des arriérés, nous avons exercé le droit syndical reconnu par la Constitution et nous avons mis les agents en grève en suivant les procédures, c'est-à-dire préavis de grève, en disant les 7 jours, et il nous a été fait le reproche d'avoir préjudicié l'État et l'intérêt général. Mais si l'État sait que l'intérêt général existe, pourquoi ne paye pas le personnel à temps? Alors qu'on ne vient pas nous dire ici, faire la fine bouche, pour dire voilà, on a voulu assainir. Vous avez induit le chef de l'État en erreur, monsieur le directeur de cabinet, et vous ne vous en tirez pas aussi facilement. Nous saisirons les instances nationales et internationales pour que le droit règne finalement dans ce pays, pour que vous cessiez systématiquement d'induire le chef de l'État en erreur. Parce que, mais c'est grave, nous sommes des Congolais. Vous ne pouvez pas un matin, parce que vous avez la possibilité d'envoyer des projets d'ordonnance au chef de l'État, lui faire signer n'importe quoi parce que vous devez régler des comptes à des délégués syndicaux qui sont devenus gênants. C'est ça la réalité. Mais il n'y a pas que les délégués syndicaux. Il y a des agents qui ont été révoqués parce qu'on a voulu les mettre dehors. Par qui vous savez? Par les représentants et les gestionnaires de la maison, vous le savez. Moi, je n'en fais pas mystère. Je l'ai dit en public devant les agents de l'OFIDA qui étaient réunis devant le secrétaire du portefeuille, que les rapports que j'entretenais avec la hiérarchie étaient mauvais et que cette hiérarchie en a profité pour me régler mon compte. Cela est connu de tous. Voilà. Quels sont les malversations? Je le mets au défi.
C'est un
état de droit, monsieur le journaliste, que nous voulons bâtir. On ne peut pas dire que certains agents ont fait montre d'un délicatesse et qu'on les révoque comme ça parce qu'on a le pouvoir de révoquer. Non. C'est pour ça que j'interpelle le chef de l'État.
pièges des erreurs qui ont été commises lors de l'assainissement, je mets assainissement entre guillemets la magistrature. Pensez-vous qu'aujourd'hui la magistrature est assainie? Je ne le crois pas. Pensez-vous qu'aujourd'hui la douane est assainie? Je ne le crois pas. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir quels sont les critères de mérite qui ont été qualifiés par monsieur le directeur de cabinet ou par la fonction publique ou par le gouvernement en général pour dire que tel agent est méritant, tel ne l'est pas. Parmi les méritants, il y a des personnes qui se sont rendues coupables d'énormes malversations financières et le directeur de cabinet le fait. Il y a des agents qui ont opéré des détournements des dettes publiques. Moi, je n'ai jamais géré un seul fonds, j'ai fait l'administration depuis que je suis engagé. Où est-ce que je vais détourner l'argent?
Tatine Sundani.
Non, je crois que monsieur le directeur, la vérité est celle-ci. On a. Le chef de l'État est en train d'opérer.
Résumez-vous, s'il vous plaît. Résumez-vous, s'il vous plaît.
Je vais me résumer. Le chef de l'État est en train d'opérer des actions qui vont dans le sens d'améliorer la gouvernance dans ce pays. Nous tous, moi en tant qu'universitaire, j'y souscris. En tant que syndicaliste également, en tant que juriste, j'y souscris. Mais il n'est pas bon que le chef de l'État, systématiquement, soit induit en erreur sous prétexte qu'il faut nécessairement faire la tolérance zéro là où. Il ne faut pas le faire.
Merci.
Tout le monde sait qu'il y a corruption dans tous les sphères de l'État.
Merci, Tati. Merci, Tati Nsungani. Permettez-nous, comme je vous l'ai dit, de dialoguer, sinon cette émission perd vraiment tout son sens. Professeur Faustin Toengao, le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre 2009, a indiqué, je cite, que des instructions détaillées seront données au gouvernement et que des réformes structurelles et institutionnelles seront entreprises dans tous les domaines de la vie nationale. Alors, comment garantir finalement la bonne mise en place de ces réformes?
Bon, effectivement, il faut d'abord commencer par dire que faut qu'on puisse dépassionner le débat. C'est un débat utile pour la République et pour le peuple congolais. Évidemment, c'est assez compliqué lorsqu'on a dans ce débat une personnalité touchée par la ligne de sa ordonnance. Je crois que c'est difficile qu'on puisse observer une attitude de neutralité, d'objectivité pour analyser la situation. Et vraiment, ça devient très difficile. Mais, quand cela ne tient, nous devons nous dépasser pour comprendre la situation. Il peut y avoir des erreurs, c'est vrai, mais on ne peut pas généraliser à partir des cas et tout ça. Au même moment qu'on parle d'un état de droit, et cet état de droit reconnaît aussi que lorsqu'on est, on se sent injustement sanctionné, le même droit préconise les voies de recours pour permettre à l'agent d'être réhabilité dans ce droit. Voilà, c'était une parenthèse. Et maintenant, pour revenir à votre question, et en fait, c'est ça toute la problématique. Il y a plusieurs aspects. Je crois que le plus important, d'abord, c'est la volonté politique qui doit être affichée. C'est plus facile d'annoncer des réformes, mais il faut-il encore vraiment qu'on puisse entourer cette réforme de beaucoup de garanties pour sa réussite. Je crois que ce qui se fait aujourd'hui, à partir de ce qu'on appelle assainissement, c'est un des éléments. Mais il faut aussi que d'autres mesures soient prises lorsqu'on met les gens en retraite. Il faudrait que des dispositions soient prises au niveau du budget de l'État pour que la retraite ne soit pas un enfer. L'agent qui doit aller en retraite doit se sentir heureux, il doit être honoré pour de loyaux services rendus à la nation. Et lorsqu'il est honoré, je crois que demain, c'est l'agent lui-même, suivant l'exemple de son prédécesseur, qui va lui-même demander la retraite. Et ça, c'est une précaution qu'il faut prendre sur le plan budgétaire. L'autre précaution aussi, c'est justement essayer de éviter la politique de deux poids deux mesures. Évidemment, on ne peut pas embrasser tous les secteurs en une journée, on commence toujours quelque part. Mais il faut que ces actions soient intégrées dans une politique pour que qu'un secteur puisse échapper, pour qu'aucune institution ne soit à l'abri de cette politique. Je crois qu'on doit aider les chefs de l'État à toucher tous les secteurs et que la moralité qu'on veut imposer dans l'administration publique ne soit pas seulement pour l'administration publique et qui constitue un peu de ce qu'on peut appeler de faible, mais il faut qu'elle puisse aller au-delà pour toucher tous les secteurs afin que la réforme soit, ne soit pas partielle, mais que ça soit une réforme globale et intégrée. Et de cette manière-là, nous pouvons espérer un lendemain meilleur, un début d'amélioration de notre administration que nous voulons efficace et efficiente dans l'effort de la reconstruction nationale.
Professeur Toingao, il y a docteur Hubert de Bukavu au Sud Kivu qui vous demande, qui dit plutôt, c'est déplorable de dire que le chef de l'État est toujours induit en erreur. Je voudrais savoir le rôle du cabinet du chef de l'État avant que celui-ci ne signe tout document brièvement.
Mais ceux qui disent que le chef de l'État est toujours induit en erreur doivent démontrer qu'il a été effectivement induit en erreur. Je crois que c'est la théorie. Hein? Je dis que lorsque un agent se sent injustement sanctionné, mais il a les moyens pour effectuer son recours. Mais le cabinet du chef de l'État, ce n'est même pas le cabinet qui prépare l'ordonnance. Il y a une telle ordonnance de mise en retraite, de promotion, des révocations, ça ne part pas du cabinet du chef de l'État, ça part du ministère qui a dans ses attributions ses domaines d'activité. Donc, on ne doit pas incriminer injustement le cabinet du chef de l'État. Le cabinet du chef de l'État reçoit les projets qui viennent des ministères et je crois que le cabinet travaille avec le ministre compétent avant de soumettre les projets d'ordonnance au chef de l'État. S'il y a erreur, donc ce n'est pas à ce niveau. C'est en amont, il faut partir du ministère compétent et en aval, maintenant, on peut voir les cabinets des chefs de l'État.
Merci.
Donc, je crois que c'est vraiment injuste d'affirmer gratuitement que les chefs de l'État étaient induits en erreur. Faut-il encore le prouver?
Merci, professeur. Florent Moulumba, directeur de cabinet du ministre de la Fonction publique. Beaucoup de réactions nous arrivent de partout. Prenons celle d'Alexis Kazadi de Bukavu qui vous demande ceci. Nous qui sommes ici à l'intérieur, nous n'avons jamais entendu parler de la dite commission de la Fonction publique et nous nous trouvons victimes de cette révocation. Pourquoi cette procédure?
Tout à l'heure, le professeur en parlant a fait allusion à un travail en amont. Le ministère de la Fonction publique ne gère pas au jour le jour les dossiers des agents. Les agents sont répartis dans les ministères. Et dans les ministères, les agents sont répartis dans les divisions, qu'elles soient au niveau provincial ou au niveau national. Ce qui fait que les fautes commises par les agents sont constatées au premier chef au niveau où l'agent exerce ses fonctions. Et les dossiers de l'agent remontent jusqu'à se retrouver au niveau de la commission de discipline. Alors, il y a, en dehors de la procédure qui passe par la commission de discipline, ce qui est généralement appelé cas de flagrance. C'est-à-dire, lorsque une erreur est commise et que cette erreur, de par le statut qui régit les agents de carrière et de service public de l'État, la faute commise passe pour une flagrance, ce constat conduit à des sanctions prévues par les textes.
Même si l'agent n'est pas entendu.
Il doit être entendu. Il n'y a aucun agent qui a été sanctionné sans qu'il ait été entendu, mais, même au niveau provincial.
Mais à comprendre la question d'Alexis Kazadi, apparemment il y a des gens qui n'ont pas été entendus.
Vous savez, nous sommes ici à la radio, les gens peuvent appeler et dire qu'ils n'ont pas été entendus, c'est tout à fait normal. Mais je voudrais qu'au même moment qu'on dit qu'il n'y a pas eu de preuves, de compromission des agents qui aient conduit à des sanctions, je voudrais en même temps qu'on prouve qu'il n'y a pas de preuves, justement. Au même moment qu'on dit qu'il n'y a pas de preuves de compromission, je voudrais qu'on prouve que la fonction publique ne détient pas, justement, des preuves. Parce que la commission ne traite pas sur base d'un vide, la commission traite sur base des dossiers qui lui sont soumis. Et ces dossiers partent d'où ? De la base.
Kabenga Chikele de Paris en France vous pose à vous la question, Florent Moulumba. Les droits légaux de tous ces retraités seront-ils respectés par l'État ? Il y a également Saïle Mbalanga de Kisangani qui dit « Je pense que qu'avant la mise en application de cette ordonnance présidentielle, le ministre de la Fonction publique doit régulariser d'abord les dossiers des anciens retraités au lieu d'accumuler le nombre de ces personnes au chômage. Bilombi de Kinshasa, c'est une bonne chose que de réformer l'administration publique, mais il faut que le gouvernement paye effectivement les retraités et qu'il poursuive aussi les révoqués en justice. Ça, vous l'avez déjà dit. Qu'en est-il des retraités concrètement?
Une chose, c'est le respect des textes en matière de la retraite. Les textes actuellement en vigueur prévoient qu'à 55 ans, un agent doit aller à la retraite. Le même texte prévoit qu'après 35 ans de carrière, l'agent doit aller à la retraite. Et lorsqu'on applique ces dispositions, personne n'a le droit de protester contre leur application. Parce qu'il s'agit là des textes régulièrement en vigueur et qui régissent actuellement la carrière des agents et fonctionnaires de service public. Est-ce que ceux qui sont partis à la retraite rentreront dans leurs droits? Mais oui, bien sûr. Lorsque les premières ordonnances sont sorties au mois de juillet, je pense que vous avez suivi, immédiatement, il s'en est suivi le paiement de leurs indemnités. Bien entendu, il est vrai, nous devons le reconnaître, on n'a pas payé la totalité, mais ça coïncidait justement avec la fin de l'exercice en cours. Et dans le budget 2010, qui a été voté par le Parlement et qui va être promulgué par le chef de l'État, il est prévu également qu'ils soient payés les droits reconnus aux agents de retraite.
Tati Nsungani, je vais vous demander une brève réaction. Il nous reste 3 minutes pour terminer l'émission. Pensez-vous que ces changements d'hommes dans l'administration publique auront un impact perceptible dans le fonctionnement de celle-ci? Voilà, Tati apparemment n'est pas en ligne. Professeur Toingao, je vous pose la même question. C'est depuis juillet 2009 que le chef de l'État a amorcé la vague de mise en place dans l'administration. L'impact de ces changements d'hommes est-il déjà perceptible?
Eh bien, c'est difficile d'évaluer l'impact en ce moment. Vous savez, lorsqu'on investit dans l'homme, l'impact n'est pas très vite perceptible. À court terme, à moyen terme, à long terme, il faudra voir cet impact. Je crois que ce qu'il faut d'abord, c'est d'agir. Nous pensons qu'on est qu'au début du processus. Ça me paraît prématuré au jour d'aujourd'hui de vouloir évaluer l'impact parce que on n'a pas encore touché la moitié de tous les secteurs de l'administration publique. Là où on peut sentir l'impact, c'est difficile que nous qui sommes en dehors de ce service-là, nous puissions nous rendre compte qu'il y a un impact positif. Globalement, je voulais dire que il faut encore un peu de temps pour être à mesure de tirer certaines conclusions après avoir évalué l'action ou l'opération et conclure que c'est positif ou c'est négatif. Donc ça me paraît un peu prématuré au jour d'aujourd'hui d'apprécier l'impact de tout ce qui se fait, mais il faut encourager le processus à aller de l'avant.
Merci professeur, c'est aussi déjà votre conclusion. Est-ce que Tati Nsungani est en ligne? Non, la réalisation me fait signe que nous l'avons perdu. Florent Moulumba, votre conclusion déjà, l'émission va toucher à sa fin en 15 secondes.
Ma conclusion est que le chef de l'État est sur le bon chemin et le ministère de la fonction publique en amont est également sur le bon chemin. Je crois que ce mariage conduira effectivement à un changement au sein de l'administration publique, parce que tout ce qui est recherché est que l'État puisse rentrer dans ses droits afin que le peuple congolais se retrouve dans ses droits.
Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Guy Maté qui a réalisé cette émission assistée de Kevin Couté et Samuel Kachak. Alain Goy a assuré la mise en onde sous la coordination de Martin Sebujangwe. À tous, une fois de plus, bonne année 2010. Restez branchés sur Radio Capi. Thank you.